7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons d'éducation comme chaque vendredi. 8 mai 1945, 8 mai 2015, 70e commémoration de la capitulation qui signe la fin des combats de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. 70 ans après, que reste-t-il dans le fond de cette mémoire-là transmise aux nouvelles générations? Comment enseigner la Seconde Guerre mondiale à l'école? Nous en parlons avec nos invités. Sébastien Ledoux, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été prof de collège pendant 10 ans en zone d'éducation prioritaire en banlieue parisienne, dans l'Essonne. Vous êtes docteur en histoire contemporaine de l'Université Paris 1 et vous avez publié « Le devoir de mémoire à l'école, essai d'écriture d'un nouveau roman national ». Alban Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur de la formation des enseignants au Mémorial de la Shoah. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le Mémorial de la Shoah à Paris ?
En deux mots, parce qu'on a une histoire très compliquée. Hein. Le Mémorial est une institution qui est située dans le quartier du Marais, près de l'île Saint-Louis, au plein cœur de Paris, et qui a aujourd'hui trois vocations. C'est principalement un musée qui accueille 200 000 visiteurs par an, donc dédié à l'histoire des Juifs en France, en Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi un lieu de mémoire, avec notamment un mur sur le parvis du mémorial, sur lequel sont inscrits les noms des 76 000 Juifs qui ont été déportés de France entre 1942 et 1944. Et c'est aussi un centre de ressources, un centre d'archives, un centre de documentation, c'est sa vocation première, qui est fréquentée quotidiennement par des historiens, des chercheurs, mais aussi des familles qui font des recherches.
Et des jeunes, et des élèves.
Et beaucoup d'élèves.
Nous regarderons aussi du côté des voisins allemands avec notre correspondante à Berlin. Comment est aujourd'hui enseignée la Deuxième Guerre mondiale? Quels sont les éléments qui prédominent outre-Rhin? Et puis nous serons en ligne avec un professeur d'histoire et géographie à Dakar, Ngeg Ngom. Il enseigne au lycée Tierno Saïdou Nouroutal à Dakar. Il nous dira quelle est la place du conflit mondial dans les programmes sénégalais et ce qui intéresse les élèves.
J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble. Un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation.
Ça a l'air d'être un truc d'intello, ça.
Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la rampe? Pourquoi vous faites ça?
C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même.
Madame, pourquoi on parle toujours des juifs?
Les enfants et les adolescents. Pas de religion, pas de nationalité.
Y a pas plus funky, là, comme concours?
Je pense, moi, que vous avez énormément de choses à dire là-dessus. Faut pas en parler comme des élèves. Il faut en parler comme des enfants. Chacun avec sa différence et avec sincérité. Et ça, je sais que vous êtes capable de le faire.
À travers les livres, les films, les documents, tout ça, c'est un peu comme si on faisait des rencontres.
A beaucoup inspiré le cinéma, exemple avec ce film de fiction sorti l'année dernière à partir d'une histoire vraie qui a été tournée avec des lycéens de Créteil, faire passer le concours national de la résistance et de la déportation à sa classe de seconde, c'est l'idée de cette enseignante, à sa classe qui est précisément justement la classe la plus faible de l'établissement. Sébastien Ledoux, Alban Perrin, aujourd'hui comment se conçoit l'enseignement de la Deuxième Guerre mondiale bien au-delà des manuels scolaires ou d'abord avec les manuels scolaires? Le programme. Sébastien Ledoux, oui, qui avait été enseignant en ZEP pendant 10 ans.
Bah écoutez, le fond, quand même, la base, ce sont les programmes officiels, évidemment, sur lesquels ensuite se calquent les manuels scolaires. Les manuels scolaires ne vont pas inventer. Ils ont des rédacteurs bien à eux, évidemment, hein, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein, c'est-à-dire que le tempo, quand même, est donné par les programmes officiels de l'éducation nationale avant toute chose.
Oui, et la place dans les programmes, c'est-à-dire à partir de quelle classe on commence à étudier la Deuxième Guerre mondiale.
La Seconde Guerre mondiale intervient à trois reprises, à la fin de l'école primaire, quand donc les élèves ont environ 11 ans, en troisième, au niveau du collège, et puis ensuite en première. Donc à trois reprises, les élèves de l'école française sont amenés à étudier cette période de l'histoire.
Avec une montée en puissance de la complexité.
Avec une montée en puissance de la complexité, c'est évident. Quand on regarde effectivement les contenus, là pour le coup, des manuels scolaires, on s'aperçoit que c'est quand même de plus en plus complexe entre l'école primaire et puis le lycée. Et parfois, peut-être, à mon goût, trop de complexité. On va peut-être y revenir, mais le programme de lycée pose quand même un certain nombre de questions.
On entendait donc là l'extrait d'un film à partir d'une histoire vraie, une enseignante donc qui fait passer un concours à ses élèves. C'est aussi une autre façon d'aborder l'histoire parallèlement au programme scolaire. Parallèlement au manuel scolaire, Alban Perrin.
Oui, alors donc nous on est beaucoup là-dedans aussi, bien sûr au mémorial de la Shoah, c'est-à-dire que bien sûr on organise en particulier donc des formations qui s'appuient sur les programmes, sur l'énoncé strict des programmes, et au-delà nous faisons partie des institutions qui proposent des entrées différentes, qu'il s'agisse donc de visites d'institutions comme la nôtre, d'ateliers pédagogiques, mais également de voyages d'études pour des classes, et c'est vrai que nous encourageons beaucoup les enseignants à travailler, même si c'est très chronophage, très exigeant en termes de temps, à travailler sur des projets sur une année. Dans le cas du sujet qui nous intéresse nous en particulier, ça peut être par exemple, comme dans le film qu'on vient d'évoquer autour du concours de la résistance, faire des recherches locales, parfois de la liste des élèves d'un établissement qui ont été déportés.
Donc impliquer les élèves personnellement en fait finalement, au plus près de leur vécu, non ?
Bah, c'est-à-dire que la Shoah, en particulier, peut devenir un événement complètement lointain, associé à des images icônes en noir et blanc, comme le porche de Birkenau. Mais si on fait travailler les élèves, par exemple, d'un lycée de la Varenne-Chenevière, donc en région parisienne, sur une maison d'enfants dont les enfants ont été arrêtés et déportés à Auschwitz en 1944, tout d'un coup, l'histoire est incarnée, et on peut suivre précisément l'histoire de ces enfants et impliquer les élèves dans une démarche d'enseignement.
Ouais, Sébastien Ledoux.
Oui, bah alors effectivement, il y a un levier pédagogique là-dessus qui est évident, c'est partir du local en fait, des exemples locaux, par exemple sur les persécutions des Juifs, sur les rafles, etc. C'est retrouver la trace d'enfants qui ont été eux-mêmes déportés. Et donc il y a beaucoup d'initiatives là-dessus. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement la Seconde Guerre mondiale, finalement, la caractéristique de cette période au niveau de l'enseignement scolaire, c'est que justement c'est une période qui a vu énormément de pratiques pédagogique spécifique depuis, on va dire, une vingtaine d'années, depuis les années 80, surtout 90. Alors, pratique pédagogique spécifique, qu'est-ce que ça veut dire pour cette période-là? Ça veut dire la venue des témoins dans les classes, ça veut dire justement les voyages de type pédagogique à Auschwitz, mais aussi dans d'autres camps. Voilà, donc c'est vraiment la caractéristique de cette période, finalement.
La Shoah, finalement, est arrivée à une période relativement récente dans l'histoire de l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est 1982, c'est ça, où la Shoah est vraiment introduite dans les cours d'histoire de la Seconde Guerre mondiale?
Oui, alors à la fin des années 70, il y a un colloque d'universitaires sur l'enseignement de la Shoah, avec le nom Shoah qui est utilisé donc dans le champ de la recherche, et le génocide en tant que tel va être introduit dans les programmes scolaires effectivement au cours des années 1980, et il y occupe aujourd'hui une place centrale, puisqu'en troisième, dans les programmes tels qu'ils sont formulés aujourd'hui, on demande aux enseignants d'enseigner le génocide des Juifs et des Tziganes. Ça fait partie des trois exigences principales des programmes en troisième, donc dans le cursus français, et en première, donc lorsque les élèves ont 16-17 ans, dans le cadre d'un thème qui s'appelle Guerre mondiale et espoir de paix, un thème évoque la Seconde Guerre mondiale, guerre d'anéantissement et génocide des Juifs et des Tziganes. Et donc effectivement aujourd'hui le génocide des Juifs et des Tziganes fait partie des grandes thématiques que les professeurs doivent aborder lorsqu'ils traitent de la Seconde Guerre mondiale, ce qui était absolument pas le cas auparavant.
Sébastien Ledoux, génocide et totalitarisme, c'est devenu les grandes questions abordées pour la Seconde Guerre mondiale.
Oui, on était effectivement pendant un certain temps sur des axes plutôt militaires en fait, sur l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale, et géopolitique, diplomatique, sur des faits de guerre en fait, donc on était sur des logiques sur ces logiques-là, et puis
avec toute la place de la chronologie.
Avec la place de la chronologie, mais moi justement, je milite plutôt pour le maintien de la chronologie dans cette histoire-là. Je pense que, si vous voulez, le programme de première fait un découpage thématique qui me semble absolument un contresens à la fois pédagogique et historique, où on va voir les guerres au XXe siècle, avec la première, la Seconde Guerre mondiale d'affilée, mais on va aller jusqu'aux attentats de 2001, et puis on va revenir ensuite au totalitarisme dans les années 30 avec l'Allemagne nazie, et quelques mois plus tard, on reviendra quand on est étudier à la France au XXe siècle sur résidence et collaboration.
Vous voulez dire que donc les élèves mélangent tout au bout d'un moment, non?
Ben, moi, il me semble qu'on s'est un peu trompé. Ça, c'est le programme officiel, donc on retrouve ça dans les manuels scolaires. Hein. Mais là, je trouve qu'on a un peu confondu une question d'agrégation et des programmes de lycée, parce que ça demande une agilité intellectuelle fantastique et que des élèves de 16 ans n'ont pas. Je veux dire, là, il faut vraiment revenir. Enfin, moi, je milite pour plutôt un cadre chronologique relativement simple, où effectivement, on va. En plus, c'est un contresens historique, c'est-à-dire comment on va pouvoir expliquer aux élèves de lycée tout ce qui est justement ce qu'on appelle la guerre d'anéantissement, qui est une guerre idéologique sur le front de l'Est en Europe à partir de 1942, en particulier donc contre les Juifs, sans avoir vu au préalable le régime nazi des années 30. Ça me semble un peu compliqué quand même. Voilà.
C'est-à-dire que c'est même un contresens sur le fond. Je vous rejoins effectivement sur le fait que le programme tel qu'il est présenté ressemble plutôt à des questions de concours qu'à des thèmes qu'on voudrait enseigner à des élèves de collège et de lycée. Et c'est un retour que nous, on a clairement des enseignants sur le terrain qui nous disent que les élèves sont demandeurs de chronologie. Et on ne peut pas comprendre la solution finale, l'assassinat des Juifs d'Europe, si on n'a pas d'abord étudié ce qu'était le nazisme. Évidemment, c'est un contresens. Pourquoi, alors, du jour au lendemain, on se met à tuer les Juifs en Europe si on ne sait pas qui est Adolf Hitler, qu'est-ce qu'était la théorie nazie, pourquoi l'antisémitisme était central dans l'idéologie nazie? On ne peut pas comprendre non plus le basculement dans le génocide si on n'a pas en tête les étapes tout simplement de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, les nazis attaquent la Pologne, ils enferment les Juifs dans des ghettos. En 1941, ils envahissent l'URSS, ils commencent à des fusillades massives dans les territoires occupés. Et puis, autour de Pearl Harbor, il y a du premier recul des armées allemandes devant Moscou, il y a un basculement dans un génocide généralisé. Donc, on ne peut pas déconnecter le génocide de la guerre.
Donc, chronologie, grande thématique, c'est pas simple d'enseigner la Deuxième Guerre mondiale. Vous diriez que c'est un des épisodes les plus compliqués à enseigner ou pas, Sébastien Ledoux, en quelques mots?
À la fois, il y a une complexité des événements, donc où il faut détricoter, il faut rester assez simple dans un cadre chronologique simple, et effectivement, en mettant en avant à la fois la guerre qui amène des processus de violence de masse, et effectivement, comme la Première Guerre mondiale, puisqu'on vient de fêter le centenaire du génocide des Arméniens, c'est un petit peu la même chose. On a effectivement en pleine guerre un processus de violence de masse, donc un génocide d'une population, donc on retrouve ces choses-là. Après, il y a effectivement une problématique qui est liée à l'antisémitisme, et peut-être beaucoup plus, on va dire, dans un cadre franco-français. Enfin, on verra peut-être en Allemagne tout à l'heure, mais dans un cadre franco-français, avec des réactions parfois d'élèves qui sont justement, on va dire, qui réagissent par rapport à cet enseignement, qui des fois mettent en cause la réalité d'un génocide.
On va en parler. Comment enseigner la Seconde Guerre mondiale en ce 8 mai 2015 chez 7 milliards de voisins sur RFI. bizarre hein, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Comment enseigner la Seconde Guerre mondiale, puisque chaque vendredi nous parlons d'éducation. Nous sommes le 8 mai 2015 et nous en discutons avec vous, Sébastien Ledoux. Vous êtes historien, chercheur, mais vous avez enseigné près d'une dizaine d'années en zone d'éducation prioritaire en collège. Et Alban Perrin, vous êtes chargé de la formation des enseignants au mémorial de la Shoah, mais vous avez aussi été chargé des voyages scolaires. Alors, voyages scolaires, il y a eu beaucoup de débats, notamment en janvier dernier, où on commémorait la libération du camp d'Auschwitz, de l'utilité, de la nécessité d'impliquer les élèves en allant physiquement visiter des camps de concentration, des camps d'extermination. Quelles sont vos positions, vous, en tant que professeur d'histoire, Sébastien Ledoux?
Alors, j'ai plusieurs casquettes, donc je vais vous répondre avec toutes en même temps, hein, donc chercheur et puis ancien professeur d'histoire. Alors, c'était Annette Vivorka qui avait dit ça il y a quelques années, en 2005, il y a 10 ans. Hein, je veux dire que aller à Auschwitz n'explique pas tout. Je veux dire qu'on peut effectivement, pour un élève, aller à Auschwitz et ne rien comprendre de ce qui s'est passé. Bon, donc déjà, il faut avoir ça en tête et ça demande, et ça vous le savez bien, c'est-à-dire ça demande une préparation, ça demande vraiment que l'enseignant se saisisse de cette question-là et au contraire ne se désiste pas de ça en disant tiens, ils vont aller à Auschwitz, voilà. Il y aura un formateur, il y aura un accompagnant et ils vont tout comprendre.
Non, il y a le mémorial de la Shoah qui par exemple peut très bien prendre en charge les choses, c'est ça.
Oui, nous on n'est absolument pas là pour se substituer aux enseignants. Hein. C'est une proposition que nous faisons aux classes dans certaines régions, en particulier en Île-de-France, d'aller découvrir un site qui est terriblement important pour la France, puisque c'est principalement vers le camp d'Auschwitz qu'ont été déportés les Juifs de France. Hein. 76 000 Juifs déportés depuis la France, 69 000 vers le site d'Auschwitz. Mais en même temps, comme vous le soulignez à l'instant, on peut très bien aller à Auschwitz sans rien comprendre, parce que c'est le lieu où l'assassinat des Juifs a pris des formes extrêmement complexe, puisque une partie des Juifs était retirée des convois à l'arrivée à Auschwitz pour rentrer dans le camp de concentration. Et ce qu'on voit aujourd'hui lorsqu'on arrive à Auschwitz, ce sont essentiellement les lieux de concentration, les vestiges qui subsistent du camp.
Et il
est très difficile pour les élèves lorsqu'ils vont là-bas de comprendre que ce sont les lieux où il n'y a plus rien à voir, parce que les chambres à gaz ont été dynamitées, qui sont en fait les plus importants, et qu'ils découvrent les vestiges d'un camp qui est immense, mais que seul 20% des déportés juifs sont physiquement rentrés dans ce camp de concentration où il y avait d'autres prisonniers que les Juifs.
D'où la nécessité d'expliquer, de passer beaucoup de temps pour un enseignant à démonter les mécaniques de l'extermination massive, en fait, Sébastien Ledoux.
Oui,
c'est pas simple, ça,
justement,
pour un adolescent à comprendre.
Le temps, c'est ce qui manque souvent aux enseignants, oui. Donc c'est vraiment très compliqué, mais effectivement, c'est primordial. Et c'est vraiment la difficulté pour un élève, même de lycée, de comprendre ça. Il y a eu une enquête, il n'y a pas longtemps, au niveau du mémorial de Caen, qui est en train d'avoir cours, et qui montre encore une fois que les lycéens finalement se saisissent de la question en parlant d'Hitler, hein, comme responsable du génocide des Juifs, en disant bah oui c'est Hitler, il était malade. Bon, alors on a du mal effectivement à comprendre que c'est un processus d'extermination qui a demandé toute une bureaucratie qui est à la fois quelque chose d'extrêmement violent, fait avec une rigueur et une méthode incroyable. Et donc c'est ça qui est compliqué en fait à faire passer, c'est ce qu'on appelait le crime de bureau, hein. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de nazis effectivement qui ont participé à ce crime.
Alban Perrin et Sébastien Ledoux, vous restez avec nous, 7 milliards de voisins, on se retrouve juste après le flash sur RFI, nous parlons de l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale chez 7 milliards de voisins. Retour dans 3 minutes, restez avec nous.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, et en ce 8 mai 2015, la 70e commémoration de la capitulation signe la fin des combats de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Comment enseigner l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire, un traumatisme jamais tout à fait refermé? On en parle avec nos invités, Alban Perrin du Mémorial de la Shoah, Sébastien Ledoux, vous avez été enseignant pendant une dizaine d'années, vous êtes aujourd'hui historien chercheur, et puis nous sommes en ligne avec notre correspondante à Berlin. Bonjour Sarah Roumette.
Oui, bonjour.
Comment enseigne-t-on l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne aujourd'hui?
En Allemagne, vous imaginez bien que le rapport avec cette histoire, ce passé-là, est particulier parce que c'est une partie centrale de l'histoire du pays et que du coup, sa place dans le présent, dans la société actuelle, est très importante en tant que telle. Un exemple frappant, c'est que les enfants allemands sont confrontés très tôt, par exemple, à ce passé et souvent de façon assez abrupte. Beaucoup m'ont raconté ici que pendant les vacances en famille à l'étranger, par exemple, quand ils disaient qu'ils étaient allemands, on les traitait de nazis avant même que eux sachent de quoi il s'agisse. Donc, quand ils arrivent à l'école, les enfants ont déjà entendu parler du nazisme, mais sans forcément comprendre ce que c'est, mais en sachant que ça fait partie de leur histoire.
Une fois à l'école, qu'est-ce que l'on transmet exactement? Qu'est-ce que les enfants doivent savoir de cette histoire?
Déjà, une petite précision, c'est que l'Allemagne, c'est un pays fédéral, et notamment les programmes scolaires dépendent des différentes régions. Donc, suivant leur histoire particulière, par exemple, les régions qui étaient en Allemagne de l'Est, celles qui étaient en Allemagne de l'Ouest, chaque région insiste sur des aspects un peu différents. Mais dans l'ensemble, l'enseignement de cette période commence en troisième, au collège, donc, et puis continue au lycée. Et c'est plus un travail sur les notions, avec, en question centrale un peu récurrente, comment ça a pu arriver ici, en fait. Les cours, du coup, portent, par exemple, sur des concepts comme qu'est-ce que le totalitarisme, qu'est-ce que la propagande, qu'est-ce que l'Holocauste. Et une autre particularité dont j'ai pas le souvenir en France, c'est qu'ici on étudie dans une même séquence la Première et la Seconde Guerre mondiale, justement pour mettre en lumière les articulations et les conséquences qui ont mené à la montée du nazisme en Allemagne.
Et comment se fait cet enseignement concrètement ?
Déjà, il faut savoir que dans cette matière, mais dans toutes les autres aussi, la pédagogie allemande met beaucoup l'accent sur l'apprentissage hors de l'école, in situ. Un de vos invités parlait tout à l'heure d'incarnation de l'histoire. Ici, c'est effectivement très utilisé dans l'enseignement, notamment de l'histoire. Et un exemple qui m'a étonnée, c'est que la quasi-totalité des élèves allemands vont au moins une fois au cours de leur scolarité visiter un camp de concentration. C'est une façon très forte et très personnelle de s'approcher de cette histoire-là. Les professeurs invitent aussi des témoins survivants pour parler avec les adolescents, ou bien les élèves travaillent sur l'histoire de leur lycée sous le nazisme. Vous en parliez aussi tout à l'heure de ces exemples-là.
Oui, pour ajouter une forme de proximité aussi à cette histoire qui peut sembler lointaine pour ces jeunes. Est-ce qu'on aborde la Seconde Guerre mondiale dans d'autres matières que l'histoire en Allemagne?
Oui, alors c'est peut-être même d'ailleurs la particularité de l'histoire de l'Allemagne, pardon, dans ce domaine, c'est que à part les matières scientifiques, toutes les matières en parlent à un moment ou à un autre, en fait. En littérature, donc en cours d'allemand, les élèves lisent des auteurs allemands du XXe siècle, travaillent sur leur biographie pendant le nazisme, parlent de ceux qui sont partis en exil à ce moment-là, ou bien les élèves étudient le livre La Vague, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre qui a été adapté au cinéma il y a quelques années, et qui raconte une expérience fasciste au sein d'une classe de collégiens. Qu'est-ce qu'il y a dans les cours de dessin aussi, on parle de la censure nazie, sur ce que les nazis avaient appelé l'art dégénéré. Dans les cours de langues étrangères, par exemple en cours d'anglais, on apprend l'histoire de Coventry, qui était cette ville anglaise qui avait été systématiquement bombardée par l'aviation allemande. Donc c'est vraiment présent dans toutes les dimensions d'enseignement d'une certaine façon. Et juste, j'aurais voulu rajouter un point. Donc je voulais vous parler dans des aspects qui est peut-être le moins visible, mais aussi le plus profond de cette confrontation avec le passé qu'il y a en Allemagne, ce qu'on appelle ici la Vergangenheitsbewältigung. C'est le changement radical qu'il y a eu après la guerre dans les méthodes d'enseignement. Donc si vous parlez, non pas du contenu, mais sur la forme de l'enseignement, parce que pour beaucoup en Allemagne, on a jugé que c'était l'éducation autoritaire qui est fondée sur l'obéissance, sur la hiérarchie, qui avait ouvert la voie au nazisme. Et du coup, c'est un peu le contre-pied qui a été pris, et maintenant l'accent est mis dans tous les cours, de toutes les classes, de toutes les matières, sur la prise de parole, sur le débat, sur le développement d'un esprit critique chez l'élève. Alors c'est pas exactement de l'ordre du devoir de mémoire dont vous parlez aujourd'hui, mais c'est un exemple très concret des leçons qu'une société peut tirer de son histoire.
Merci beaucoup Sarah Roumette à Berlin. Vous êtes la correspondante de RFI. Vos réactions, Alban Perrin peut-être et Sébastien Ledoux, par rapport à ce qui a été énoncé sur la façon dont on transmet cette mémoire-là de la Seconde Guerre mondiale, Alban Perrin?
Première chose, la volonté en Allemagne d'inscrire cet enseignement dans plusieurs disciplines, la littérature, le dessin, j'ai noté les langues vivantes aussi. Nous, c'est une dimension sur laquelle on assiste beaucoup. Là, on est en contact avec des inspecteurs pédagogiques dans différentes régions pour développer des formations en cours d'allemand, en direction également de professeurs de lettres, donc pour développer effectivement, faire de cet enseignement un enseignement transversal. Quand je m'occupais des voyages d'élèves sur le site d'Auschwitz, on insistait beaucoup pour que le professeur d'histoire ne soit pas seul et qu'il soit accompagné d'un professeur de langue vivante, d'un professeur de philosophie. Et là encore, je pense qu'effectivement, développer l'esprit critique chez les élèves est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Et si on veut que cet enseignement soit utile, au-delà d'une incantation récurrente dont on va peut-être parler autour du devoir de mémoire, qui est souvent une formule utilisée de façon très insistante, mais aussi très très creuse, parfois dans le discours politique.
Et souvent rejetée par les élèves aujourd'hui aussi.
Le meilleur service qu'on puisse rendre aux élèves, c'est de développer leur intelligence. C'est comme ça qu'on peut faire barrage au retour de systèmes totalitaires.
Sébastien Ledoux, là, sur justement ces matières transversales, est-ce qu'au bout d'un moment, moment, il n'y a pas trop.
C'est l'un des constats quand même. C'est l'un des constats depuis quelques années. On parle de saturation parce que à la fois, il faut bien dire que c'est à la fois à l'école, mais aussi dans les médias, que cette histoire est extrêmement présente. Donc, c'est l'un des défis, je veux dire, du mémorial de la Shoah, par exemple. C'est l'un des défis de l'école de pouvoir enseigner et faire comprendre un passé sans qu'il soit rejeté, sans faire une sorte de tarte à la crème de la citoyenneté, mais au sens le plus pauvre, le plus pauvre qui soit.
Est-ce alors, qu'on n'est pas passé finalement de dans l'immédiate après-guerre jusque dans les années 70 d'un silence assourdissant, voire même de l'occultation, parfois de la Shoah, un emballement éducatif.
Déjà par rapport au silence, moi je suis pas du tout de cet avis-là. Il y avait des choses quand même qui se disaient, qui se faisaient, qui étaient extrêmement minoritaires, c'est évident. Mais pour avoir rencontré quelques enseignants très âgés, on disait que dans les années 60, ils parlaient quand même du génocide des Juifs. C'était pas dans les programmes là pour le coup, effectivement.
Voilà,
non. Alors c'était d'une initiative personnelle.
Les voyages d'études, par exemple, les visites des camps, tout ça, ça date de quand ça
Non,
c'est les années 80.
Ça, c'est les années 80. L'emballement entre guillemets, c'est les années 90.
La Shoah est vraiment inscrite au cœur de la Seconde Guerre mondiale dans les programmes.
Oui, et avec des voyages.
Le
développement des voyages, c'est les années 90 avec les fondements de l'Europe communiste à l'Est, qui a ouvert la voie à ça. Si vous voulez, le reproche qu'on peut faire, enfin l'un des leurs, c'est lié à l'éducation de la citoyenneté, c'est-à-dire que on relie une histoire à un enseignement, et là le cas de l'Allemagne est extrêmement frappant, je veux dire que les Allemands ou les jeunes Allemands sont amenés à apprendre cette histoire, mais à chaque fois, c'est complètement relié à un enseignement de la citoyenneté et du vivre ensemble, du fameux vivre ensemble. Ce qu'on remarque, c'est que ça peut être un appauvrissement de l'histoire et de ce passé-là que de vouloir le faire à passer à tout prix comme un enjeu citoyen.
Il ne faut pas que ça devienne un prétexte, quoi. Il faut d'abord enseigner des faits. Il faut apprendre aux élèves à réfléchir, à avoir ce regard critique dont on parlait à l'instant. Si on utilise la Seconde Guerre mondiale et les crimes qui se sont déroulés au cours de la Seconde Guerre mondiale pour imposer aux élèves une espèce de petit catéchisme morale, on ne va avoir que des réactions de rejet, de mise à distance et de défiance.
Alors justement, en ce qui concerne la mise à distance, le rejet, la défiance, pour bon nombre de Français, évidemment, le conflit est aussi inscrit dans la mémoire familiale. Bon nombre de Français ont des grands-parents encore capables de raconter, ne serait-ce que l'occupation, enfin, je veux dire, la France de Vichy, sans avoir été concernée par les déportations. On n'en a pas encore parlé, la France de Vichy, ça ressemble
alors,
à quoi l'occupation?
C'est justement un
Mais
peu
pas
le...
tous les Français non plus.
Non. Là, vous touchez à un autre problème, effectivement. C'est-à-dire que le caractère central, en fait, effectivement, du génocide des Juifs a forcément un peu déplacé et marginalisé certaines autres questions. Bon, voilà. Mais c'est comme ça en histoire. Je veux dire, quand on prend un thème central, d'autres thèmes sont...
À moins de rajouter des heures d'enseignement, sinon,
Et ce n'est pas possible, et ce n'est pas le cas actuellement.
On chasse autre chose.
Voilà. Il y a un exemple frappant, c'est l'Exode. L'Exode a touché des millions de Français en 1940, mai-juin 1940, au moment de la défaite. Et là, pour le coup, effectivement, c'est dans la mémoire familiale. Vous prenez l'exemple de Ouest-France, quand il a donné la parole il y a quelques années à ses lecteurs, on a beaucoup parlé de l'Exode. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui est vraiment extrêmement présent dans l'enseignement d'aujourd'hui. Voilà, donc une question d'histoire qui était vécue de près et dans les mémoires familiales et qui n'est pas forcément très présente aujourd'hui.
Sur les générations, je serais pas tout à fait de votre avis parce que le temps passe. Moi, j'ai aujourd'hui 40 ans. Mon grand-père paternel était né en 1922, si je me trompe pas. Donc, il avait 20 ans en 1942. C'est une génération. Mon autre grand-père était de 1913. Il a été prisonnier de guerre et ces choses dont il pouvait parler, ils sont morts. Ils sont morts tous les deux il y a 17 ans. Mon neveu qui est aujourd'hui au collège, ses grands-parents à lui, ils sont nés après, quoi. Et je pense à ça pour la France. Je pense à ça aussi pour la Pologne, qui est un pays que je connais bien également. Où on voit très clairement qu'il y a une génération qui est en train de disparaître. C'est les gens qui étaient jeunes adultes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, les grands-parents sont des gens qui sont nés juste après, dans une Pologne en particulier, pour revenir à l'assassinat des Juifs, dans une Pologne où pour la première fois, il n'y avait pratiquement plus aucun Juif. Donc c'est tout
alors,
à fait...
Justement, je voulais en venir à vos élèves que vous avez eus pendant une dizaine d'années en zone d'éducation prioritaire dans la banlieue parisienne, Sébastien Ledoux, pour des élèves qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas de traces directes du conflit dans leur famille. Quelles sont les difficultés ?
Alors, je tiens à préciser qu'heureusement, on peut apprendre un passé, même si notre famille ou nous-mêmes, nous sommes un peu étrangers. Je veux dire, bon,
on est d'accord. Tous étudiés la Révolution française.
Et c'est pour ça que je milite pour l'enseignement de la Grèce antique et de Rome, etc., etc. Bon, vous savez que c'est une question assez chargée. Je vais faire un résumé, mais ce que vous venez de dire, puisque on a posé comme principe que justement des élèves issus d'immigration venaient des réactions antisémites et justement qu'il n'y ait la Shoah, etc., etc. Au début des années 2000.
Voilà, on l'a beaucoup dit parce qu'ils étaient confession musulmane, parce qu'ils s'inscrivaient aussi dans un positionnement par rapport au conflit israélo-palestinien. Il y a une espèce d'amalgame, en fait. On ne sait plus où on en est.
C'est pour ça qu'elle est complexe, cette question que vous soulevez. Et donc, j'essaierai de faire une réponse un peu nuancée. Je dirais que moi, personnellement, dans ma classe, pendant des années, j'ai pu enseigner la Shoah de façon normale, avec des élèves issus de l'immigration. Et ce qui ne posait pas trop de problèmes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et je pense qu'effectivement, si je peux avoir une analyse aujourd'hui, je pense que les problématiques se sont un peu durcies par rapport à ça depuis quelques années. Je veux dire qu'on n'est plus en 2001 ou 2002 où justement était soulevé ce problème, mais on est en 2015 et les problèmes n'ont fait que s'aggraver.
Vous voulez dire qu'à votre époque, ça pouvait être simplement des questionnements, c'est ça ?
C'était pas des questionnements, il y avait des fois des prises de position, mais disons qu'effectivement, ce qu'on sent aujourd'hui, c'est un antisémitisme diffus. Et en même temps, il faut faire extrêmement attention, c'est-à-dire qu'il n'est pas question non plus de stigmatiser l'ensemble d'une population qui serait devenue antisémite. C'est pour ça que je dis qu'il faut appeler un discours nuancé. Et moi, je veux dire que n'importe quel Français a besoin de cette histoire-là, hein, a besoin de l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale, et pas un élève issu d'immigration plus qu'un autre. C'est là où je trouve qu'il faut faire attention, parce que je trouve que des fois, on a tendance à dire, ah ben tiens, on va les emmener à Auschwitz, eux, parce qu'ils en ont besoin. Non, attention, là, tout le monde on en a besoin à la limite. Donc ça répond à une nécessité de comprendre
un passé. En Allemagne, la quasi-totalité des élèves ont effectué des visites de camps d'extermination, des camps de concentration. En France, quelle est la proportion des élèves aujourd'hui à avoir effectué ce type de voyage ?
J'en ai...
Est-ce qu'on sait d'ailleurs ? Est-ce que c'est comptabilisé ?
Aucune idée. Nous en emmenons quelques centaines par an. Mais de toute façon, la découverte d'un site... d'un camp de concentration ou d'un lieu où la solution finale a été mise en œuvre ne peut rester qu'une formule exceptionnelle. On n'est pas en Allemagne où si vous sortez de Weimar, vous allez avoir Buchenwald, ou vous sortez d'Hanovre, vous allez avoir Bergen-Belsen.
Voilà, c'est tout. Sur la difficulté des enseignants que soulevait Sébastien Ledoux, où ils sont littéralement parfois pris en étau, ils ne savent pas comment s'y prendre avec un certain public, avec certains élèves. Pas forcément tout le temps.
Oui, alors nous on a des retours du terrain, notamment dans le cadre des formations qu'on organise, hein, des professeurs qui s'inscrivent à nos formations parce qu'ils sont un peu désemparés par rapport à des réactions d'élèves qui sont malheureusement sous une certaine coupe idéologique et peut-être pas tant liées à leur origine africaine, maghrébine, qu'à une certaine vision de la religion qui leur est imposée par leur entourage. Que ce soit la famille ou le quartier, et donc les professeurs disent voilà, j'étais en cours, mon collègue, voilà, on finissait un cours sur la Seconde Guerre mondiale, et une élève me dit tout ça c'est pas vrai, il y a une histoire interdite, ça c'est une histoire officielle que vous nous livrez, il y a une histoire interdite, voilà, il y a une histoire dont on peut pas parler, c'est que ce sont les juifs qui ont provoqué la Seconde Guerre mondiale. Une question comme ça de but en blanc, qu'est-ce qu'on répond lorsqu'une élève nous interpelle en disant mais ce sont les juifs qui ont provoqué la Seconde Guerre mondiale? Il faut être armé pour dire attention, l'argument de la guerre juive est justement un argument nazi.
Vous restez avec nous dans quelques instants. Nous serons en ligne avec un professeur de lycée à Dakar. Ça sera juste après José González. On parle de l'enseignement de la Deuxième Guerre mondiale chez 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins sur RFI. Comment enseigner la Seconde Guerre mondiale, 8 mai 1945, 8 mai 2015. Nous sommes en ligne avec un enseignant maintenant au lycée Thierno Saïdou Nouroustal à Dakar. Bonjour Ngueg Ngom.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire donc en lycée. Vous avez une classe de terminale, hein, je crois, cette année dans ce lycée qui se situe près de l'université Charanta Diop à Dakar. Quelle est la place au Sénégal du deuxième conflit, de la Deuxième Guerre mondiale dans les programmes sénégalais?
La place de la Seconde Guerre mondiale dans les programmes sénégalais, c'est une place centrale, structurante même du programme pour la classe de terminale. Dans la mesure où nous commençons le programme d'histoire des terminales par la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences, les règlements du conflit, donc toute la période contemporaine a été pratiquement déterminée par les grands événements de la Seconde Guerre mondiale. En classe de première aussi, la Seconde Guerre mondiale, les étapes de la guerre, les causes de la guerre constituent une partie importante du programme de première. Et enfin, en classe de troisième, pour ceux qui préparent le brevet, ils ont également un thème sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc, disons, c'est un événement majeur qui structure les programmes des classes de troisième, première et terminale.
J'imagine que bon, il y a du cours magistral, mais il y a aussi maintenant, tout comme en Europe, des documentaires, des utilisations de films, si tant est que cela soit possible. Je pense que c'est variable d'un établissement à l'autre. Qu'est-ce qui intéresse finalement, quels sont les aspects de la Deuxième Guerre mondiale qui intéressent le plus les élèves sénégalais aujourd'hui, de ce que vous observez, vous, dans votre classe?
Tous les grands thèmes de la Seconde Guerre mondiale intéressent les élèves, mais particulièrement, il y a la question de la reconstruction de l'Europe après la guerre. L'Europe a fait appel à la main-d'œuvre coloniale. Et cette première vague d'immigration importante en Europe. Et la problématique, c'est maintenant qu'ils font la relation avec le phénomène de l'immigration d'aujourd'hui, qui dépasse vraiment les compétences de nos États. Et alors, c'est à ce niveau où les élèves sont vraiment assez intéressés. Ils posent des questions. Comment se fait-il que l'Europe, hier, avait besoin d'une main-d'œuvre africaine? Aujourd'hui, elle rejette cette même main-d'œuvre-là. Sans pour autant essayer de trouver ensemble des solutions qui pourraient aider tout le monde, aussi bien les pays européens que les pays africains, à réguler le phénomène de l'immigration. Donc, c'est un thème important qu'ils ont discuté pendant le cours, durant toute une semaine. Donc, ils ont discuté de cette problématique-là. La deuxième problématique importante aussi, c'est en rapport avec la participation des Africains dans la guerre, notamment les tirailleurs sénégalais, qui ont constitué ce qu'on appelait la force noire, qui était dans donc l'armée française. Évidemment, ce n'était pas seulement la France, puisque la Grande-Bretagne a aussi utilisé les soldats indigènes d'Afrique et d'Asie. Et donc, ces problématiques-là également ont été débattues par les élèves, ça les a intéressés grandement.
En ce qui concerne, alors on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, bien sûr, de l'enseignement de la Shoah, puisque c'est devenu, ça occupe une place centrale dans l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale, dans la plupart des pays d'Europe, hein, je pense, Alban Perrin, vous ne me démentirez pas seulement en France, on a entendu le cas de l'Allemagne également. Concernant l'enseignement de la Shoah, est-ce que vous avez, par exemple, dans un pays musulman à plus de 90% comme le Sénégal, est-ce que vous avez des élèves qui parfois ont des réactions de mise en doute de l'existence réelle de la Shoah, puisque certains enseignants sont confrontés à ces difficultés-là en France?
Pas une seule seconde.
Pas une seule seconde.
Parce que déjà, personnellement, c'est un thème d'activité pédagogique que j'en fais, parce que quand on déroule une leçon importante, il y a ce qu'on appelle l'établissement d'un programme pédagogique, d'un projet pédagogique pour ce thème-là. Et il y a un aspect important, c'est qu'on organise chaque année au niveau du lycée une exposition sur la Shoah. Carrément. Et pendant 2 jours, 3 jours, les élèves passent, ils visitent l'exposition, ils posent des questions, et il y a un groupe d'élèves qui se forment et qui travaillent avec les autres élèves pour leur expliquer effectivement la Shoah et sa portée universelle. C'est pas seulement une question qui a concerné...
Du génocide en tant que tel, oui.
Oui. Donc c'est une question de dimension universelle et qui nous intéresse au premier chef. Puisque l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale a pour effet de donner à nos élèves une mémoire. Et cette mémoire, elle doit servir à quelque chose. Et c'est pourquoi quand les événements se sont produits en France en janvier, j'étais étonné quand je suis arrivé, les élèves n'ont pas laissé démarrer mon cours, ils ont commencé le cours par la question. Alors, je leur ai dit que, mais de toute façon, oui, Charlie Hebdo. Donc je leur ai dit que, mais non, justement, c'est une problématique qui est importante, on peut en discuter, mais il faudrait élaborer justement un projet par rapport à ça. Ouais. Donc c'est une question vraiment qui nous a intéressés. Et je pense que les professeurs d'histoire et de géographie au Sénégal, dans une terminale, ils donnent un aspect particulier sur le procès de Nuremberg. Qui fut un jalon important de l'établissement du droit international.
Merci beaucoup Ngaï Ngom, donc enseignant d'histoire au lycée, histoire et géographie hein, bien sûr, au lycée Tierno Saïdou Nourotal à Dakar. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Peut-être en conclusion, Alban Perrin et Sébastien Ledoux, peut-être vos réactions par rapport à ce que vient de nous raconter cet enseignant Sébastien Ledoux.
Il y a aussi la décolonisation hein, par rapport à la Seconde Guerre mondiale en Afrique, évidemment. Hein, l'effet de la Seconde Guerre mondiale, c'est la décolonisation dans le monde, mais aussi pour les pays africains hein, comme conséquence. Donc effectivement, comme le dit ce professeur d'histoire-géographie, c'est un événement structurant. Alors, il y a deux choses. C'est un événement, si vous voulez, structurant du XXe siècle, ça c'est clair, mais ce qu'on constate
le
encore...
Le monde n'est plus le même après.
C'est un tournant, ce qu'on appelle un tournant, mais ce qu'on constate encore aujourd'hui en 2015, c'est que ça reste un événement structurant dans la mémoire de beaucoup, finalement, de personnes, de gens. Et là, pour le coup, ça s'est transformé dans les années 80-90, on en a beaucoup parlé, mais c'est devenu une sorte d'apprentissage, hein, de propédeutique, on appelle ça un propédeutique, d'apprentissage des universaux. Et le collègue en Afrique le disait, hein, et c'est ça, justement, qui est contesté aujourd'hui. C'est pour ça que on a une cristallisation autour de cette question.
L'humanisme universel.
Voilà.
C'est ça.
Donc, finalement, bon gré mal gré, c'est devenu le lieu d'un apprentissage de valeurs universelles, et qui est contesté aujourd'hui par un certain nombre d'élèves.
Alban Perrin.
Sur la question de l'enseignement de la Shoah en Afrique, le mémorial de la Shoah organisait avec l'UNESCO au mois de septembre un séminaire pour des représentants des pays, des ministères de l'éducation nationale de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne en particulier, et qui va se décliner en différentes actions éducatives, des renforcements dans les programmes sur place. Et c'est vrai que le souhait des représentants des ministères des pays d'Afrique était de souligner à chaque fois la dimension universelle, mais aussi souvent d'essayer de faire le lien avec des problématiques locales. En particulier, les représentants de la Côte d'Ivoire ont été très actifs dans ce séminaire. Il y avait également des représentants du ministère du Burundi, donc avec des problématiques aussi localement assez compliquées. Il me semble que de toute façon, l'enseignement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ne peut pas être déconnecté de l'histoire de l'Afrique. Lorsque nous organisons des formations à Strasbourg, nous passons systématiquement devant le monument de Koufra, et Koufra, c'est en Afrique. Voilà. Donc cette histoire-là ne peut pas être déconnectée aussi bien avant et après du contexte africain.
Mais dans le fond, est-ce qu'on peut vraiment apprendre du passé?
Alors, il y avait quelqu'un qui disait l'histoire donne des leçons, mais elle n'a pas d'élèves. Donc ça, c'est la version un peu pessimiste. Donc on va aujourd'hui pour un 8 mai être assez optimiste. Effectivement, j'espère qu'il y a une transmission du passé possible. Oui.
Merci en tout cas tous les deux, Sébastien Ledoux. Donc vous avez été professeur de collège pendant 10 ans en zone d'éducation prioritaire, et vous avez publié Le devoir de mémoire à l'école, essai d'écriture d'un nouveau roman national. Sarrebruck, édition universitaire européenne 2011. C'est bien sûr noté sur RFI.fr. Alban Perrin, vous avez été coordinateur des voyages d'études, et maintenant vous êtes chargé de la formation des enseignants au mémorial de la Shoah. Le lien est bien sûr sur la page des 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Romain Dubrac, pour toutes vos réactions. Vous pouvez nous écrire à 7milliards@RFI.fr. Réécoutez aussi toutes nos émissions en podcast. Lundi, 7 milliards de voisins, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois 3 femmes journalistes de 3 continents pour commenter l'actualité de leur choix. Merci à vous tous de votre fidélité. À lundi.